Je me tourne vers la salle pour des questions à Monsieur Agimon qui vont du coup peut-être pouvoir permettre de compléter la fin de l'exposé.
Une question, j'ai l'impression que tu viens de détruire en quelques minutes ce qui pour moi était de l'histoire et j'ai l'impression que c'est une légende. Dans tout ce que j'avais lu jusqu'à présent, les heures de gloire d'Aulus thermale, ce n'était pas les années 1870, c'était avant, avec même une visite de l'impératrice Eugénie, donc c'était forcément avant 1870. Et tu nous dis en plus que la route d'Hercé à Aulus, c'est 1871, donc c'est quoi toutes ces histoires? C'est une légende?
Alors, est-ce que vous vous rappelez, parce que alors, je n'ai jamais vu, donc aux archives départementales, en tout cas, il n'y a aucune trace de cette histoire pour l'impératrice Eugénie. mais ça peut faire partie, puisqu'il y a, en fait, mais on le voit dans toutes les stations, c'est pas propre à Aulus du tout, mais une légende qui se construit très vite, en fait, dès les années 1910-1920, il y a une légende qui se construit sur le passé, et à Aulus, on considère très vite que, bien, il y a eu un passé fantastique autour du Second Empire, et un passé que moi, je n'ai pas retrouvé du tout.
Ça, c'est intéressant. Il y a une autre légende concernant les thermes d'Aulus. À cette époque-là, à Aix, les thermes ont fait des travaux de rénovation et on trouve réellement des monnaies romaines. Donc on se dit que les thermes d'Aix ont probablement une origine gallo-romaine. Et aussitôt, à Aulus, on prétend la même chose. J'ai beaucoup cherché dans les archives, y compris le PV de visite de l'ingénieur des mines qui suivait les travaux de captage d'Aulus. Et il n'est pas question de monnaie romaine, donc ça aussi, c'est de la légende.
Oui, puis retrouver une monnaie quelque part nous signifie... Oui, voilà.
Bien sûr.
Mais oui, bah alors ça, voilà, en fait, toutes les stations, c'est un argument publicitaire, pour se vendre, il faut paraître ancien. L'ancienneté la plus glorieuse, ce sont les Romains. Luchon l'a fait, enfin, toutes les stations l'ont fait. Il y a eu tout un conflit au XIXe siècle sur Luchon, pour savoir si c'était bien ces termes dont parlait Strabon. Voilà, on a tranché ça seulement dans les années 1980, mais voilà. Donc toutes les stations ont essayé de faire ça et de se rattacher à un passé glorieux romain qui légitimait la réussite présente, ou qui devait la nourrir en tout cas.
Et une dernière, juste une toute petite remarque pour finir, je ne vais pas monopoliser la parole. La vieille montagne, effectivement, à Aulus, à l'époque, c'est une mine de zinc.
D'accord.
Oui. Est-ce que dans le développement touristique actuel, est-ce qu'il y a une synergie entre les activités thermales et les activités de ski, comment dit, d'allier une économie d'été et une économie d'hiver?
Alors, ça a été vraiment dans les Pyrénées. En fait, c'est peut-être un des échecs pyrénéens, c'est d'avoir voulu mettre la saison hivernale au service de la saison estivale. Et donc, d'aménager les sites qui étaient les plus proches des stations, pas forcément les meilleurs, mais les plus proches des stations, pour nourrir en fait l'hôtellerie de stations. Et les stations qui ont marché en France, ce sont celles qui se sont développées en site vierge et loin de toute station thermale. Donc il y a une volonté originelle, une volonté originelle très claire et systématique dans les Pyrénées de mettre au service la saison hivernale, au service de la saison estivale. Et on le retrouve aujourd'hui. On le retrouve depuis les années 1960-1970 avec la volonté, mais qui marche plus ou moins, de proposer des produits thermaux pour les skieurs, par exemple. Produits remis en forme, voilà. Qui marche plus ou moins. Donc les deux sont extrêmement liés dans les Pyrénées, en deux mots.